Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
You are fake news.
Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu? Écoute, tu n'en sauras pas plus.
Les sales pétinelles 2.
Foot,
maintenant.
Bonsoir, vous allez bien? Sachez que pour ceux qui écoutent ce podcast dès sa sortie, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, vous êtes également sympathiques, mais vous pouvez faire mieux. C'est le début des vacances, du moins pour les universitaires, et le premier jour des vacances, si on compte pas le week-end. Là aussi il y a débat, les vacances elles commencent le vendredi soir ou le lundi. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain débat sur troisième lieu. Hein. Non, c'est faux, il y aura jamais ce débat. Hein. Ne l'attendez pas, il n'arrivera pas. Et il y a aujourd'hui 50 ans, jour pour jour, Gad Elmaleh voyait le jour en même temps qu'on mettait en orbite la première station spatiale au monde, Salyut 1, par l'Union soviétique. Pendant 175 jours, plusieurs équipes se relaient. La première équipe arrive à la station spatiale, mais ils n'arrivent pas à ouvrir la porte, du coup ils repartent sur Terre. Des mois de préparation, des centaines d'heures d'entraînement pour à l'arrivée oublier la clé. Mais deux mois plus tard, la deuxième équipe arrive cette fois-ci à entrer, mais au bout de deux semaines seulement dedans, un feu se déclare. Il est maîtrisé, mais ils ont quand même ordre de rentrer. Et après être parti, au moment de rentrer dans l'atmosphère, la séparation des modules détruit les vannes de pressurisation, les cosmonautes tombent dans les pommes et sont morts à leur arrivée au sol. Les modifications vont prendre tellement de temps qu'ils abandonnent le projet. 50 ans plus tard, la station spatiale internationale est toujours en orbite après 23 ans. La NASA va repartir bientôt sur la Lune grâce à SpaceX pour cette fois-ci tenter de rester à long terme. Malheureusement, les drames et catastrophes dans ce domaine sont nécessaires et inévitables pour en arriver là aujourd'hui. Et au sommaire de ce podcast, pas d'aéronautique, c'est pour ça que j'en ai parlé dans l'intro, mais c'est encore mieux. Il n'est là que depuis quelques temps, mais on ne l'arrête déjà plus. Hugo, comme chaque semaine, vous propose un récap de l'actualité mondiale, politique française, judiciaire américain, tension USA-Russie, les JO de Tokyo, sport et bien d'autres choses dans l'actualité de la semaine. Encore une chronique cinéma pour Sam, lui aussi est inarrêtable, cette semaine sur La Môme, film biographique sur Edith Piaf, et grande nouveauté, j'ai enfin mis une bande-annonce. Absolument pas parce qu'après le montage, ma chronique était beaucoup trop courte et donc j'ai rajouté une bande-annonce pour qu'elle dure 5 minutes. Non, vraiment, si vous pensez ça, vous me connaissez mal, parce que c'est faux. Capucine, vous ne la connaissez pas encore, mais vous allez très vite la découvrir. Et elle fait son apparition dans ce podcast numéro 33 avec une chronique sur le conflit Iran-États-Unis qui a récemment fait parler l'actualité. Les heures sont comptées pour Cédric. Bientôt à la retraite, il vous offre son fameux flixitarien consacré au programme pour enfants, avec des jeux d'enfants, des histoires d'enfants, bref, vous retomberez en enfance en écoutant ce flixitarien. On termine avec votre expert politique préféré, Thomas, qui vous parlera du vote aux States, ou aux États-Unis quoi. Et sur cette intro et sommaire sans doute trop long, hein, je vous laisse avec Hugo et ses actualités.
Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hugo Dariusoglou. Pour la sixième semaine consécutive, je vous propose un tour de l'actualité internationale et française de la semaine écoulée. Dans l'actualité cette semaine, la France a perdu un de ses héros. Hubert Faure, membre des commandos Kieffer, est mort samedi à l'âge de 106 ans. La droite française a également perdu l'un des siens, Éric Raoult, ancien ministre de Jacques Chirac, est mort à l'âge de 65 ans. Toujours en France, l'Union de la gauche en vue de la présidentielle 2022 a pris du plomb dans l'aile après une réunion des dirigeants infructueuse. À l'international, le procès de Derek Chauvin touche à sa fin. Ce lundi marque le jour des plaidoiries et des réquisitions. Pendant ce temps, la ville de Minneapolis a de nouveau été secouée par la mort d'un Afro-Américain de 20 ans, Dante Wright, abattu par une policière. L'enquête est en cours. Les tensions diplomatiques sont montées d'un cran entre Washington et Moscou après l'expulsion de 10 diplomates par l'administration Biden. Plusieurs médecins demandent un accès immédiat à l'opposant russe Alexei Navalny en danger critique de mort. En Chine, le Parti communiste accentue la pression sur les militants pro-démocratie à Hong Kong. Et enfin, sur le terrain sportif, les Jeux Olympiques de Tokyo, impopulaires, sont toujours menacés. En sport mécanique, le week-end a sacré le français Fabio Quartararo en moto et le néerlandais Max Verstappen en Formule 1. En football, la 33e journée du championnat de France a vu le match nul de Lille et les victoires de Lyon, Monaco et du PSG. Et pour finir, le sacre du tennisman grec Stefanos Tsitsipas au Masters 1000 de Monte Carlo, premier gros tournoi sur terre de la saison. Je m'incline devant sa mémoire et présente toutes mes condoléances à sa famille, ses proches et au commando Kieffer. La ministre des Armées Florence Parly a rendu hommage samedi au résistant Hubert Faure, décédé à l'âge de 106 ans à Paris. Né en Dordogne en 1914, Hubert Faure s'était engagé dans l'armée en 1934 avant de rejoindre la résistance dès le début de la guerre. Fait prisonnier après la drôle de guerre, il s'échappe pour rejoindre les forces de la France libre à Londres. 4 ans plus tard, il est l'un des 160 177 Français à débarquer en Normandie ou au sein des troupes dirigées par Philippe Kieffer. Il reste un survivant de ces commandos, Léon Gauthier est aujourd'hui âgé de 98 ans. La droite française rend hommage à l'ancien ministre délégué à la ville et à l'intégration de Jacques Chirac, Éric Raoult, maire de la ville du Raincy en Seine-Saint-Denis, de 1995 à 2014, et député pour la première fois de 1986 à 1997 sous l'étiquette RPR. Il est décédé à l'âge de 65 ans à Paris. Il avait été nommé ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion en mai 1995 avant d'obtenir le poste de ministre délégué à la ville et à l'intégration qu'il occupera jusqu'en juin 1997. Il avait également milité pour un rapprochement du RPR avec le Front National après avoir battu la fille du cofondateur du parti frontiste, Marie-Caroline Le Pen, aux législatives de 1988. Politique française toujours, l'Union des Gauches en vue de la présidentielle 2022 a du plomb dans l'aile. Les principaux dirigeants des partis se sont réunis samedi à Paris, autour notamment du premier secrétaire du Parti Socialiste Olivier Faure, de la maire de Paris Anne Hidalgo, du député France Insoumise Éric Coquerel et de l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot. Une réunion qui n'a débouché sur aucune avancée concrète, si ce n'est un accord de non-agression. Pour finir avec l'actualité française, un fait divers. La semaine avait débuté par l'enlèvement d'une enfant de 8 ans, Mia Montemaghi, vendredi dans les Vosges. Elle a été retrouvée avec sa mère dans un squat du canton de Vaud, en Suisse. Lola Montemaghi et sa famille sont des adeptes du survivalisme et des théories du complot. La garde de sa fille lui avait été retirée en raison de son profil suicidaire et confiée à la grand-mère maternelle par la protection de l'enfance. Cette dernière a été abusée par 5 hommes, proches des idées survivalistes, qui se sont fait passer pour des fonctionnaires contactés par sa fille via les réseaux sociaux. Inconnus des services de police, les 5 hommes vont être présentés à un juge d'instruction en vue d'une mise en examen. Détenue en Suisse, la mère fait l'objet d'une demande d'extradition. Aux États-Unis, les procès de Derek Chauvin touchent à sa fin, mais la banlieue de Minneapolis gronde à nouveau. Un jeune afro-américain de 20 ans, Dante Wright, a été abattu par une policière à Brooklyn Center lors d'un contrôle routier. La policière a affirmé avoir confondu son pistolet à impulsion électrique avec son arme de service. Elle a démissionné après avoir été arrêtée puis relâchée sous caution. Elle a été inculpée d'homicide involontaire et risque 10 ans de prison. Cette affaire a également entraîné la démission du chef de la police locale. De son côté, Derek Chauvin a décidé de se murer dans le silence pour les dernières heures de son procès. Ce lundi 19 avril sera le jour des plaidoiries et des réquisitions avant que le jury ne se retire pour délibérer. L'administration Biden se frotte également à son homologue russe. Le président américain a annoncé des sanctions financières contre la Russie et l'expulsion de 10 diplomates soupçonnés d'être membres des services de renseignement. Par ailleurs, 6 entreprises technologiques sont sanctionnées pour leur soutien technique aux hackers, soupçonnées de tentatives d'ingérence lors des 2 dernières campagnes présidentielles. Sont également pointées du doigt 8 personnes et entités impliquées dans l'occupation de la Crimée depuis 2014. Si Moscou a répondu en expulsant à son tour des diplomates américains, la Russie est également en froid avec la République tchèque. Prague a annoncé l'expulsion de 18 employés de l'ambassade soupçonnés d'être des espions. 2 d'entre eux sont soupçonnés d'avoir provoqué l'explosion de 2 dépôts de munitions en 2014. Il s'agit, selon les autorités tchèques, de 2 Russes également impliqués dans la tentative d'assassinat à l'agent neurotoxique Novichok de l'ancien agent double Sergei Skripal à Salisbury en 2018. Le Kremlin, pressé par la famille et les médecins de l'opposant Alexei Navalny, a autorisé les visites. Emprisonné depuis le 2 février, le principal opposant a entamé une grève de la faim le 31 mars et aurait perdu 9 kilos selon ses médecins qui craignent pour sa vie. Alexei Navalny souffre notamment de problèmes rénaux. En Chine, le Parti communiste accentue la pression sur les militants pro-démocratie à Hong Kong. Les leaders du mouvement ont écopé de plusieurs peines de prison. Le mania de la presse Jimmy Lai a écopé de 14 mois pour avoir organisé les manifestations pro-démocratie en 2019. 4 autres militants ont été condamnés à 18 mois ferme et 4 à de la prison avec sursis. Au Japon, l'organisation des Jeux Olympiques est plus qu'incertaine. Malgré l'assurance affichée par le Premier ministre Yoshihide Suga en visite à Washington, les teneurs du parti ont clairement envisagé l'annulation pure et simple des compétitions prévues du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Le Japon traverse actuellement une nouvelle vague de pandémie qui a contraint le gouvernement à réinstaurer des restrictions à Tokyo, Kyoto et Okinawa pour au moins un mois, en raison d'une flambée du nombre de cas. Un peu moins de 4000 cas positifs par jour depuis environ une semaine. Selon un sondage de l'agence de presse Kyodo, plus de 70% des Japonais interrogés sont défavorables au maintien des Jeux Olympiques. Sur le terrain sportif, la 33e journée de Ligue 1 a resserré un peu plus les écarts en tête. Lille a été tenue en échec par Montpellier, vendredi lors du match d'ouverture, score 1 partout. Malmené et même mené à domicile par AS Saint-Etienne, le PSG s'est imposé 3-2 grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Pablo Sarabia. Actuellement 3e, l'AS Monaco a pris le meilleur sur les Girondins de Bordeaux 3-0. Enfin, les Lyonnais s'en sont sortis face au FC Nantes, un succès 2-1 grâce à un doublé de Memphis Depay. Au classement, Lille compte respectivement 1, 2 et 3 points d'avance sur Paris, Monaco et Lyon. Les Lillois se déplacent à Lyon, justement, dimanche 25 avril à 21h. Monaco sera à Angers à 17h05. Et la veille à 17h, le PSG sera à Metz. La MotoGP et la Formule 1 étaient au Portugal et en Italie ce week-end. En MotoGP, c'est le français Fabio Quartararo qui a remporté le Grand Prix de Portimao. Il s'agit de sa deuxième victoire de la saison, la cinquième de sa carrière. Il devance le pilote italien de Ducati Francesco Bagnaia et l'espagnol de Suzuki Joan Mir. Longtemps sur le podium, Johan Zarco a chuté. Au championnat du monde, Fabio Quartararo est en tête avec 61 points, avec 15 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Zarco est quatrième avec 40 points. En Formule 1, le néerlandais de Red Bull Max Verstappen a devancé les britanniques Lewis Hamilton sur Mercedes et Lando Norris sur McLaren lors du Grand Prix d'Émilie-Romagne. Côté français, Pierre Gasly sur AlphaTauri et Esteban Ocon Alpine profitent d'une pénalité infligée au finlandais d'Alfa Romeo Kimi Raikkonen pour terminer aux 7e et 9e positions. Au classement du championnat du monde, Lewis Hamilton devance Max Verstappen d'un point, Lando Norris de 17 unités et le monégasque de Ferrari Charles Leclerc de 24 points. Lors du prochain Grand Prix de Formule 1, elles investiront le circuit de Portimao le week-end du 2 mai. Les motos seront dans le même temps en Espagne sur le circuit de Jerez. Pour terminer cette revue d'actualité, un petit tour sur la planète tennis. Comme chaque année, le tournoi de Monte Carlo a donné le coup d'envoi du sprint vers Roland Garros. C'est le grec Stefanos Tsitsipas, numéro 5 mondial, qui l'a emporté en dominant le russe Andrei Rublev sur le score de 6-3-6-3. C'est le 6e titre ATP du grec, le premier dans la catégorie Masters 1000. C'est juste en dessous des grands chelems en termes de prestige, de dotation et de points distribués. 1000 points. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle piqûre de rappel de l'actualité.
Biopic, drame, musique, France, Marion Cotillard, toutes ces informations nous renvoient vers un même et seul film qui est devenu aujourd'hui l'un des films français les plus connus au monde. Il s'agit bien évidemment de La Môme. Film français devenu aujourd'hui culte, le scénario et la réalisation sont dans l'œuvre de Olivier Dahan, cinéaste français qui a fait Le Petit Poucet en 2001, Les Rivières Pourpres 2 avec Jean Reno en 2004, ainsi que La Môme. Mais il est surtout connu pour être le metteur en scène de Mozart l'Opéra Rock au Palais des Sports en septembre 2009 et pour la réalisation de nombreux clips musicaux pour Raphaël, France Gall, Renaud, I.M., The Cranberries, MC Solar, etc.
Il y a quelques jours, la destinée m'a fait croiser le chemin de celle que vous allez voir maintenant. Vous allez la voir telle qu'elle m'est apparue. Allez,
venez. C'est une grande artiste.
Parce que j'ai mis des talons.
Elle est étourdissante.
La scène, c'est un tout.
T'as des mains merveilleuses. Certain.
Brigitte, sors.
Je suis ta mère.
Qui n'ont pas eu de chance.
Allez, la môme, chante-nous un truc.
Vous ne m'avez jamais vu.
On fait penser à un moineau, un piaf, la môme piaf.
T'es mon champion. Je veux que tu sois à moi pour la vie.
Tu as l'air d'une fée.
Non.
Je dois chanter, Louis, j'ai pas le choix.
C'est tout de suite.
Je ne regrette rien.
La voix est comme l'âme de Paris.
Il est bien pour ma fête. Il est mal.
Mais
ça m'est bien égal. Non, rien de rien.
Qu'est-ce qui se passe?
Il faut que tu sois courageuse, Edith.
Non,
l'avion s'est écrasé.
Donc, La Môme, ou La vie en rose pour le titre international, c'est un film biographique français, anglais et tchèque qui dure 2h20 et qui sort en 2007. On retrouve bien sûr Marion Cotillard dans le rôle d'Edith Piaf, Jean-Pierre Martin, Gérard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Sylvie Destude, Pascal Grégory et Emmanuel Seignier. Pour l'histoire, eh bien, comme je l'ai dit, c'est un film biographique qui donc retrace la vie de la chanteuse, parolière et compositrice française Edith Piaf, active de 1935 jusqu'à sa mort en 1963. Le scénario ne veut pas du tout être linéaire, hein, on va alterner entre Edith Piaf petite, Edith Piaf adulte et Edith Piaf plus vieille. On va voir ses débuts quand elle était enfant et surtout comment elle est passée d'artiste de rue à gloire internationale, en passant par sa vie compliquée et ses problèmes de santé qui mirent fin à l'icône mondiale. Le film est disponible sur Netflix, c'est un classique du cinéma biographique, dramatique et français. Quand on pense à Edith Piaf, on pense tout de suite à la femme des années 50, la petite femme vêtue de noir sur scène en robe noire qui chante les chansons classiques que tout le monde connaît aujourd'hui dans le monde entier. Mais en voyant le film, on se dit « merde, c'est elle Edith Piaf en fait ». Bah ouais, parce qu'on va suivre toute sa vie intimement, on va comprendre déjà comment comment elle en est arrivée à devenir une icône de la chanson française, mais on va surtout découvrir les traumatismes de la chanteuse, son passé. Parce que c'est vrai qu'Edith Piaf, en fait, tu l'imagines pas du tout enfant. Tu l'imagines star planétaire, vêtue en noir, avec sa voix caractéristique sur scène. On découvre que sa vie a pas du tout été facile, hein, et c'est un film très dur, avec certaines scènes qui sont magnifiquement bien jouées par Marion Cotillard. Cotillard nous offre une performance incroyable qui, au départ, devait être Audrey Tautou dans le rôle. C'est notamment cette interprétation d'Edith Piaf qui a fait décoller sa carrière internationale. On la retrouve aujourd'hui aux côtés des plus grands acteurs hollywoodiens. En 2007, c'était pas une immense star, Cotillard. Et il y a même des sociétés de production comme Disney qui se sont retirées du projet parce que Cotillard, comme premier rôle, c'était pas assez rentable hein, vu qu'elle n'était pas connue du tout. On la connaissait surtout en France pour Taxi, donc c'est pour vous dire. Enfin bon, pensons à Disney qui doivent maintenant avoir les boules de s'être retirés du projet. Le film a reçu 49 prix dans le monde entier, en tout, et 61 nominations. Parmi eux, 5 Césars, 2 Oscars, ce qui fait de lui le premier film français à recevoir 2 Oscars. Marion Cotillard est entièrement rentrée dans le personnage, hein, déjà parce qu'elle était maquillée pendant des heures, parfois 5 heures de maquillage pour ressembler à Piaf, et grâce à de nombreux cours de chant, d'expression, de gestuelle pour ressembler entièrement le plus possible à Piaf. Elle a également rasé ses sourcils pour en reproduire de plus réaliste au maquillage. C'est vrai qu'avec ce film, en fait, on découvre réellement une artiste qu'on croit connaître par ses chansons et sa popularité, mais on se rend compte que c'est pas seulement ça, c'est pas seulement des chansons, c'est pas seulement une carrure, une icône, mais c'est aussi, surtout, une femme, certes particulière, et on le voit grâce au jeu de Cotillard, mais une femme qui a du talent, certes, mais qui a surtout grandi au début du XXe siècle, ce qui n'était pas facile à l'époque, en particulier pour les femmes. Voilà donc cette grande femme qu'on surnommait la Môme Piaf, incarnée de façon remarquable par une artiste inconnue, qui a fait décoller sa carrière et redorer la popularité du cinéma français, chose qu'on ne verra que par la suite avec The Artist en 2011, lorsqu'il remporta pas moins de 5 Oscars. Voilà, c'était tout pour le film La Môme, toujours disponible sur Netflix, hein, alors où je vous parle, j'espère que cette chronique vous a émoustillé. Je sais pas si c'est l'adjectif qui convient. Enfin bref, normalement la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises et si j'ai le temps de la faire, on se retrouve pour une nouvelle chronique La Folle Histoire. Je ne l'ai pas encore écrite, mais normalement elle devrait sortir dans une semaine. J'espère que j'aurai le temps. Enfin bref, je vous dis à la semaine prochaine et sur ce, portez-vous bien. Ciao.
Pourquoi ça s'appelle le troisième lieu ?
Comme la plupart des gens, vous regardez les infos sur votre téléphone ou alors vous écoutez la radio. Et si c'est le cas, vous avez forcément déjà entendu parler des relations relativement tendues entre l'Iran et les États-Unis. On s'écoute quelques extraits pour se rafraîchir la mémoire.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations today is the repressive regime in Iran.
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو.
Cette colère entre les deux pays, on l'a dernièrement vu avec la mort du général Soleimani début 2020 et la peur sur les réseaux sociaux d'une possible troisième guerre mondiale. Mais malgré tous ces événements, est-ce qu'on sait vraiment d'où vient cette haine entre les deux pays ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans les années 1950, donc on est au début de la guerre froide, le but des États-Unis c'est d'avoir le plus d'alliés dans son camp et ainsi d'empêcher l'expansion du communisme dans le monde. Donc les États-Unis se tournent vers l'Iran, on sait que l'Iran se trouve au Moyen-Orient et que c'est une région du monde très convoitée, notamment pour ses ressources puisque c'est 2/3 des hydrocarbures de la planète, mais aussi pour sa position stratégique, on pense notamment au canal de Suez. Mais l'histoire débute réellement en 1953. Mossadegh est au pouvoir en Iran et décide 2 ans plus tôt de nationaliser le pétrole de son pays. Forcément, on se doute bien que c'est une action qui plaît pas vraiment aux États-Unis, et du coup les États-Unis organisent un coup d'État par l'intermédiaire de la CIA. Mossadegh est remplacé par le Shah d'Iran, Mohamed Reza, qui lui est proche des États-Unis. Donc les deux pays coopèrent et puis tout se passe pour le mieux. Cependant, le Shah réduit progressivement certaines libertés fondamentales et durcit ainsi le régime iranien. Donc en 1979, une révolution éclate, c'est la fameuse révolution iranienne. Profitant du chaos engendré par la révolution, l'ayatollah Khomeini, qui est un chef religieux très puissant, va se hisser progressivement à la tête du pays, puisque le Shah d'Iran, au vu de l'ampleur de la révolution, s'est réfugié aux États-Unis. Mais le basculement, c'est réellement le 4 novembre 1979, où 52 citoyens américains de l'ambassade américaine de Téhéran sont pris en otage par des gardiens de la révolution. Cet événement, on le voit notamment dans le film Argo de Ben Affleck, qui est un film, petite parenthèse, que je vous conseille d'aller voir parce qu'il explique très bien cet événement. Et donc en 1981, les otages sont finalement libérés, donc on est quand même 444 jours après, et cet événement reste malgré tout gravé dans la mémoire américaine. Donc c'est en partie à cause de cette prise d'otages qu'il y a des tensions qui persistent entre les deux pays. Mais pourtant, on voit que ces tensions, elles semblent même s'accentuer davantage chaque année. En mai 2018, Trump se retire de l'accord de Vienne, initialement mis en place en 2015 pour limiter le nucléaire iranien en échange de la levée des sanctions économiques internationales. Et donc en se retirant de cet accord, les États-Unis rétablissent l'embargo qui était pourtant levé en 2015 et le monde assiste par la suite à la crise du détroit d'Hormuz en 2019 où des pétroliers américains sont sabotés et forcément les États-Unis accusent l'Iran. Et après, la suite vous la connaissez, c'est la crise des drones, c'est l'assassinat du général Soleimani, mais aussi l'engouement et la peur sur les réseaux sociaux d'une possible troisième guerre mondiale. Donc tous ces événements qui se sont déroulés depuis le début de la guerre froide montrent bien que les tensions entre les États-Unis et l'Iran semblent inextricables.
Écoute, tu n'en sauras pas plus.
Attention, petit retour en enfance pour les contenus de cette semaine. Faites des gosses ou soyez-en un. Cette semaine au sommaire, des histoires d'enfants, des histoires de jeux d'enfants et des histoires pour les enfants, parce qu'on ne sait plus quoi consommer sur les plateformes du net, c'est le flexitarien. Débutons avec le programme court le plus mignon, mais parfois d'une crudité simple. Les cahiers d'Esther, adaptés de la BD du même nom de Riyad Satouf, elle raconte la vie avec ses mots d'Esther depuis l'âge de ses 10 ans. Si elle a aujourd'hui 14 ans, dans le dernier tome qui est sorti en librairie, dans la saison 2 diffusée sur Canal+, elle n'a que 11 ans et continue de découvrir le monde avant son arrivée au collège. Les 50 épisodes reprennent les histoires distillées au long des pages de la BD, ainsi Esther vit son CM2, accueille un petit frère, ressent les attentats, imagine son futur, tente de savoir si Dieu existe, partage l'amour, passe un test pour le collège et conserve encore et toujours son innocence.
Je m'appelle Esther et j'ai 10 ans. Hier, c'était un vendredi 13. C'est un jour apparemment qui porte malheur. Je comprends pas. Moi, c'est l'inverse. J'ai l'impression que ce jour, il me porte trop bonheur. En fait, hier soir, donc, mes parents ont regardé un match de foot. Je déteste le foot. Quand je suis arrivée dans le salon, et ben mon père, il a juste éteint la télé ou changé de chaîne, d'un coup.
C'est que des individus armés.
Oh, tiens, chérie, ça... on regarde réponse ?
Reviens ! Mes parents, ils regardaient tout le temps leur portable pendant le film. C'est bizarre, en fait, ils avaient l'air très inquiets. Je me demande si c'est pas la France qui a perdu le match. En fait, je sais pas du tout pourquoi ce vendredi-là, mon père m'a dit que j'irais pas à l'école le lundi. Et ça a fait un week-end tellement énorme. Et je suis trop heureuse. Merci réponse, merci le vendredi 13.
La série nous permet de se replonger en enfance, de découvrir ce que c'est d'avoir sa première dizaine d'années dans les années 2010 et de profiter d'un monde où ce qui est parfois négligeable a de l'importance et vice-versa. Après le visionnage des épisodes, vous n'aurez qu'une envie, découvrir la BD pour savoir comment grandit Esther et les nouvelles aventures qu'elle vit en tant que jeune fille. Cependant, étant une adaptation, vous vous divulgacherez les futures saisons, les histoires et les dessins autant fidèles à l'original. Les cahiers d'Esther pour fondre de mignonnerie, c'est sur MyCanal. L'enfance, c'est aussi des jouets. On a tous joué avec des Barbie, des G.I. Joe, des Transformers ou des Hello Kitty. Mais connaissez-vous vraiment leur histoire ? C'est ce que vous propose Netflix dans sa série documentaire The Toys That Made Us, l'équivalent de The Movie That Made Us, dont je vous ai parlé dans un Flixitarien la saison dernière. Les trois saisons, composées de 4 épisodes d'une quarantaine de minutes chacun, va vous révéler les secrets de vos jouets préférés. Comment même venus de franchises cinématographiques ou de dessins animés, ils sont devenus des incontournables des coffres à jouets et autres sapins de Noël.
Ruth a pris conscience et s'est dit « Pourquoi n'existe-t-il pas une poupée en trois dimensions que ma fille pourrait habiller ?»
Alors que cette idée a germé dans la tête de la mère de famille, elle est partie avec son époux et ses enfants en vacances, en Suisse. Et c'est là qu'elle a trouvé l'inspiration, là où elle ne l'attendait pas.
Et Ruth a vu une poupée, belle, pulpeuse, qui faisait 30 cm de haut.
C'était une prostituée dans une bande dessinée osée, censée apporter un peu de piment dans la vie des Allemands après la guerre. Lily est tout sauf un modèle respectable pour les enfants.
Elle n'avait rien de la femme lambda. Mais ça n'a pas empêché Ruth Handler, qui était une véritable visionnaire, de voir comment elle pourrait transformer cette figure sexy, dévergondée, en un exemple à suivre pour les futures jeunes femmes de la classe moyenne américaine. Elle a fait preuve d'une intelligence rare.
Elle a acheté plusieurs de ses poupées pour les rapporter aux États-Unis.
Si l'on considère Ruth Handler comme la maman de Barbie, alors Jack Ryan en est le papa.
Les documentaires sont globalement tous intéressants malgré des parcours assez différents, hein, certains partant de rien, d'autres d'un univers déjà bien construit et délimité. Vous aurez tous, pour un ou plusieurs d'entre eux, une sensibilité plus grande et dont vous trouverez le document passionnant car vous aurez grandi avec. La dernière saison s'intéresse aux figurines des Tortues Ninja, des Power Rangers, de My Little Pony ainsi qu'aux figurines de Catch, des profils divers et suffisamment larges pour attiser votre curiosité, les trajectoires de vie de ces jouets étant parfois étonnantes et inattendues. The Toys That Made Us est à retrouver sur Netflix. Et parmi les jouets de cette liste, on y trouve les incontournables Lego dont les plus simples briques ont fondé un empire. Si beaucoup ont tenté de les copier, comme Duplo qui ont juste Lego surdimensionné, c'est pourtant les petits bonhommes jaunes qui après être devenus des films, des dessins animés sont aujourd'hui au centre d'une émission de concours de construction. Du nom de Lego Master, le divertissement est adapté d'un format anglais où il est là-bas pour enfants, tandis que l'Australienne est un show impressionnant avec des constructions gigantesques autour de thèmes et de défis. C'est cette dernière version que vous allez écouter et qui a été diffusée en décembre dernier sur M6, animée par Eric Antoine.
Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette ville.
Le projet de départ, c'est de créer un nouveau système d'habitation. Eric est venu, a été séduit par le projet et nous a demandé s'il pouvait nous acheter un loft. Eric est un magicien, donc il fait un peu des expériences folles de temps en temps. Et là, il a trouvé une petite graine. Ça a été la planter dans le jardin, là. Et puis, un gros monstre aux plantes surgit et commence à attaquer toute l'infrastructure. Et Eric se sauve bien vite fait.
C'est très clair. Qu'en penses-tu, Paulina ?
Vous avez très très bien rebondi avec le twist et vous avez créé une créature vraiment sublime.
J'ai vu que vous avez mis énormément de détails au rez-de-chaussée, dans ces boutiques où on trouve l'agence immobilière qui vend justement les appartements, les boutiques de fringues. Et c'est bien joué parce qu'on voit vraiment la panique, on voit vraiment le danger qu'il y a sur cet immeuble qui commence à s'écrouler. Franchement, bravo parce que vous revenez de très très loin.
Alors oui, sur le papier, on est assez sceptique et pourtant, comme pour d'autres émissions de la chaîne, telles que Le Meilleur Pâtissier ou Top Chef, on regarde émerveillé les créations de candidats qu'on pense être incapables de réaliser alors qu'on a tous le matériel pour faire de même. J'ai principalement regardé la version australienne, mais également française, et malgré mon faible niveau in English, j'ai adoré les différents défis et idées développées, des constructions en hauteur, dans l'eau, des ponts, des explosions, d'autres défiant la gravité et certaines où la destruction est au centre du résultat final. J'espère donc que la version française sera à la hauteur. Le divertissement est à retrouver sur le replay d'M6. A noter autour des Lego, un autre documentaire de Netflix sur un lieu génial au Danemark, la Lego House, fait de constructions qui émerveillent petits et grands à découvrir au nom de Lego House, Home of the Brick, sur Netflix. La plupart des dessins animés pour enfants sont inregardable passer l'âge de 12 ans à en devenir fou et vouloir détruire la télévision à coups de marteau. Pourtant, je vais vous parler de deux dessins animés que j'adore et que vous pourrez aussi aimer. Le premier, et ça donne le niveau de mon idiotie, les Lapins Crétins. Déjà fan des jeux vidéo, la version en épisode de 10 minutes me régale. Ils sont bêtes, dangereux, mais parfois plein de tendresse. Petit extrait. Voilà, j'ai fait l'extrait. Après ça, vous aurez compris que c'est un peu comme ma famille, on se ressemble. C'est à retrouver sur la plateforme Ludo de France Télévisions, sur Nickelodeon Junior, sur Netflix, sur Boing, les Lapins Crétins Invasion portent bien leur nom. Enfin, un dessin très animé, le monde incroyable de Gunball. Outre les diverses manières utilisées pour intégrer les décors et les personnages entre réalité et animé, Gumball nous embarque dans un monde encore enfantin, au bord de l'absurde et de la folie. Accompagné de son frère un poisson orange, son père un lapin rose et sa mère une chatte bleue, et sa petite sœur rose et surdouée, ils forment une famille qui scindrait que bien dans le cadre général avec des personnages tout aussi loufoques comme un ballon, des animaux, une glace et autres. Extrait de Gumball et Darwin tentant d'expliquer à sa mère, dans son entreprise, comment utiliser un ordinateur.
OMG, t'es trop une daronne. Surveille ton langage.
Pour toi, ça veut dire quoi, OMG?
Je ne sais pas exactement, mais je pense que ça doit être offenser ma grand-mère.
Jackie Wilson, dure matinée aujourd'hui. C'est l'anniversaire de la disparition en mer de mon grand-père. Et tu as répondu avec la photo d'un chaton triste qui dit « Osef ».
Oui, obtenez nos sentiments d'empathie familiale.
Dis-moi au moins que tu as un bon mot de passe.
Mon mot de passe est très sécurisé. Regardez.
7ER majuscule 3$ arrobase. Super majuscule chiffres et caractères spéciaux. C'est pas mal du tout.
Super.
Mais tu viens de le publier sur ton journal.
Ils postent et partagent n'importe quoi. Leurs neurones se changent en petits pois. Accueillent les arnaques, les robots. Et se pourrissent le cerveau.
Les ours polaires mentent sur le réchauffement climatique. Cliquez sur le lien, inscrivez-vous ici. Des trucs gratuits, autant qu'on en veut. Devenez docteur sans étudier. Trouvez l'âme sœur à elle mort.
On ne va pas y échapper, Darwin. On est aussi fichu que le Harlem Shake, là. On ne peut pas les laisser gérer un ordinateur.
Le monde incroyable de Gumball, c'est sur Gulli, Cartoon Network et Netflix. Et voilà, je vous laisse et je vous fais quitter cette bulle qui enfonce le clou sur la dure réalité. Redevenez gosse, bambin, pitchoun et autres mômes. Soyez flexitariens.
Et ça le fait email 2.
Bonjour, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de vote et des élections américaines. Je vais pas revenir sur les élections de 2020, mais on va plutôt parler de la manière dont est instrumentalisé le vote aux États-Unis. Vous avez peut-être déjà entendu parler en ce moment de certains États qui essaient de mettre en place des lois qui réduiraient le nombre de votants en augmentant notamment les conditions qui permettent de voter ou au travers d'autres stratagèmes dont on va parler. Mais pourquoi est-ce que cette stratégie est mise en place? Qui est-ce qui en profite? Et au profit de qui? En quoi est-ce que c'est un problème que moins de votes soient comptabilisés dans le futur? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Revenons au tout début et à la manière dont le système a été conçu de base. Le système américain, je parle. Vous avez déjà sûrement entendu parler du collège électoral. Et si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous faire vite fait un petit rappel. En gros, chaque État a un nombre prédéfini de grands électeurs censés être proportionnels à sa population. Lorsque les gens votent pour les présidentielles, ils votent pour le candidat du parti de leur choix, et celui qui remporte la majorité des voix dans un état remporte la totalité des grands électeurs. C'est le principe du winner takes all, qui fait que si vous avez voté pour le candidat démocrate et que c'est les républicains qui gagnent, par exemple, votre vote ne compte pas, votre vote ne rapporte pas de points au candidat démocrate. Le gagnant de l'élection est celui qui obtient 270 grands électeurs, soit la majorité. Bon. En plus de ça, qui est déjà un problème en soi, le gros problème, c'est que les grands électeurs sont très mal répartis. On va prendre un exemple. Il y a 3 grands électeurs dans le Wyoming pour 580 000 habitants au total. Et en Californie, il y a 55 grands électeurs pour 35,51 millions d'habitants. Si vous voyez pas le problème, en fait, c'est juste des maths. Un grand électeur du Wyoming représente 183 000 personnes. Un grand électeur californien représente lui 146 000 personnes, soit plus de 3 fois plus. En gros, c'est-à-dire qu'une voix du Wyoming vaut 3 fois plus qu'une voix californienne. Ça vaut 3 fois plus de points dans le système électoral. On retrouve ce phénomène dans beaucoup d'états, hein, y a pas que le Wyoming où ça vaut beaucoup plus. Et c'est beaucoup d'états ruraux, avec une faible densité de population, et qui, on l'a vu dans toutes les dernières élections, qui sont des états à majorité républicaine. Ce qui donne un avantage en fait aux candidats républicains pour les présidentielles, parce qu'ils récoltent plein de points qui valent beaucoup. On remarque d'ailleurs que les candidats n'ont gagné qu'une seule fois le vote populaire, c'est-à-dire le nombre de voix totales, qui sert qu'à titre indicatif mais qui est quand même important, pendant le 21e siècle. C'est George W. Bush en 2004 qui avait gagné de plus de 3 millions de votes. Toutes les autres élections gagnées par des républicains, c'est-à-dire Bush en 2000 et Trump en 2016, ont été gagnés sans la majorité des votes exprimés, mais avec une majorité de grands électeurs. Alors ça, c'est un premier problème électoral aux États-Unis, mais il y en a bien d'autres. Le deuxième nom dont on va parler, c'est le gerrymandering. C'est un nom un peu brutal, je vous l'accorde, qui désigne le concept de redesigner les districts électoraux pour en tirer un gain politique. C'est un peu compliqué, donc on va faire étape par étape. En partant de la base, dans la plupart des villes américaines, les quartiers sont séparés les uns des autres et certaines variables sociologiques sont clairement visibles dans la délimitation. Dans la plupart des villes américaines, les quartiers sont séparés les uns des autres et certaines variables sociologiques sont clairement visibles dans les délimitations des quartiers. Ce que ça veut dire, c'est que la richesse ou l'origine ethnique, par exemple, détermine énormément l'endroit dans lequel on vit. Les personnes riches, statistiquement plus blanches, vont vivre dans des quartiers spécifiques, voire dans des communautés fermées qu'on appelle des gated communities, avec une police privée, etc. Alors que les personnes noires ou latinos, statistiquement plus pauvres, vont vivre dans d'autres quartiers. Vient ensuite la notion de districts électoraux. C'est en fait assez similaire à la France. Pour les élections législatives en France, ou à la Chambre des représentants aux US, le pays est découpé en plein de circonscriptions pour la France, ou de districts pour les États-Unis, dans lesquels se joue une élection à un poste de député ou de représentant. Donc c'est, aux États-Unis, c'est un contre un démocrate contre un républicain. En France, bah, y a plusieurs partis, mais y en a un, au final, qui sera député ou aux États-Unis représentant. Pour prendre un exemple, Alexandria Ocasio-Cortez, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, la jeune représentante démocrate, elle a gagné dans le 14e district de New York. Ok, donc maintenant on a les bases, donc comment est-ce que ça marche le gerrymandering? En gros, les gouvernements des États peuvent décider de redécouper les districts plus ou moins comme ils le sentent. C'est à leur charge, c'est à eux de le faire, de faire des découpages, et donc ils ont le droit de le changer. La seule règle, c'est qu'ils ne peuvent pas faire de gerrymandering racial, c'est-à-dire faire un district avec que des personnes noires, un avec que des personnes blanches, un avec que des personnes latinos, etc. Ça, c'est interdit. Mais, et le mais est là, ils peuvent le faire avec les tendances politiques. C'est donc du gerrymandering politique. Sauf que ça revient parfois au même, puisque la population noire américaine vote à 80% voire plus pour les démocrates, et donc du coup, bah, des fois, on se retrouve avec des districts entièrement, certes entièrement démocrates, mais également entièrement noir. Sauf que ça passe. Parce que c'est justifié comme étant du gerrymandering politique, ce qui est autorisé. La manipulation, elle peut se faire de deux manières différentes. Soit en étalant les votes démocrates un peu partout, au sein des districts, en essayant de faire en sorte qu'ils n'aient la majorité nulle part, comme ça ils ne gagnent aucun district. Soit en dessinant des grands districts démocrates, c'est-à-dire en découpant vraiment, ça fait des formes, vraiment regarder la forme de certains districts électoraux aux États-Unis. C'est aberrant, ça n'a aucun sens. Et en fait, le but, c'est de cloîtrer toutes les personnes qui à tendance démocrate dans un seul district. Comme ça, ils gagnent ce district-là avec un énorme pourcentage. Et ensuite, faire plein de districts républicains autour. Comme ça, ça donne plus de sièges, en fait, tout simplement, aux républicains. Alors, vous avez remarqué peut-être, j'ai mis les républicains dans le rôle des manipulateurs. C'est pas par haine des républicains, c'est juste pour refléter en fait une réalité actuelle, qui est que ce sont les républicains qui font ce genre de choses, qui ont recours à ce genre de choses. C'est pas quelque chose qui est réservé aux républicains, mais c'est eux qui l'utilisent en ce moment pour plusieurs raisons. La première étant que la majorité des États ont des gouvernements locaux républicains. Donc c'est eux qui ont les rênes en fait, puisque c'est eux qui ont les rênes sur le gouvernement local. C'est également eux qui perdent le vote populaire. C'est une stratégie qui préfère donc se rabattre sur ce genre de méthode plutôt que de faire appel à de nouveaux voteurs. Mais ce n'est pas la seule technique utilisée actuellement par les républicains pour restreindre les voix démocrates. On en revient là à mon point de départ sur les projets de loi actuels qui permettraient de réduire le nombre de votes. Ces mesures sont voulues par des républicains soi-disant pour réduire la fraude. Alors, je reviens vite fait sur la fraude. La fraude électorale aux États-Unis, ça arrive dans 0,00006% des cas, selon une étude du MIT sur les 20 dernières années. En gros, vous avez 5 fois plus de chances de vous prendre un éclair sur la gueule que qu'il y ait de la fraude électorale. Il me semble que c'est moins de 10 cas sur les 6 dernières élections. Donc on parle sur des centaines de millions de votes. Donc la fraude électorale aux États-Unis, ça n'existe pas. Mais les républicains veulent mettre des législations en place pour la contrer quand même. On va donc prendre l'exemple de la Géorgie, qui veut notamment instaurer l'interdiction de donner à manger ou à boire aux personnes faisant la queue pour voter. Vous devez vous dire, la queue pour voter, c'est 15-20 minutes, allez, grand max 20 minutes. Donc, c'est pas très grave, quoi. Alors non, parce qu'en fait, les gouvernements locaux choisissent aussi le nombre de bureaux de vote dans les districts, et ils en mettent toujours excessivement peu dans les districts qui votent à tendance démocrate, principalement dans les districts avec une forte population noire et latino. Cela crée des queues devant les bureaux de vote qui peuvent durer jusqu'à 10 heures. Et oui, vous arrivez le matin à 10h, vous repartez le soir à 20h et vous n'êtes même pas sûr que votre vote soit comptabilisé. En plus, si on ne peut pas vous donner de l'eau, bah il y a des chances que vous alliez pas voter, tout simplement. C'est qu'un seul exemple de ces lois. La plupart des autres ont à voir avec le fait de devoir présenter des documents qu'il faut payer avant de voter. Ce qui revient donc à payer pour voter au final. Donc, bah, pas du suffrage censitaire, mais bon, ça s'en rapproche quand même. Et ça a un impact beaucoup... plus grand, évidemment, sur les populations les plus pauvres, et parmi lesquelles les personnes noires et latinos sont très largement surreprésentées, en fait. Ce qui arrange les républicains, parce que c'est pas des personnes qui votent pour eux en majorité. Aujourd'hui, il y a 361 projets de loi ayant pour but de restreindre le vote dans 47 états différents, ce qui fait peur pour la qualité de la démocratie américaine dans le futur, même si, rassurez-vous, la plupart de ces projets ne passeront pas. En fait, pourquoi est-ce que c'est une stratégie de restreindre le vote? C'est surtout parce que c'est admis ouvertement par les républicains. Moins il y a de gens qui votent, plus les républicains font de bons résultats. C'est une stratégie qui est mise en place directement par les chefs exécutifs de campagne républicaine. Ils le disent ouvertement, moins il y a de gens qui votent, plus on a de chances de gagner. Donc, bah, ils essaient de restreindre le vote, plutôt que de chercher à changer ça et à attirer de plus de monde possible avec peut-être des meilleurs programmes. Après, là, ce n'est qu'un avis personnel que j'aimais sur le programme. Mais voilà, j'espère que cette chronique vous a plu, j'espère que vous avez compris un petit peu les enjeux du vote aux États-Unis. Merci à tous et bonne semaine.